Chapitre 9. Qui est au juste ce vieux jésuite que tu m'as amené hier? Comment encore ce Sacchini? Paolo Sacchini, c'est un Toscan. Il était professeur d'histoire au Collège romain. Je ne sais où il m'a vu, comme il l'affirme, à moins qu'il ne sème le faux pour savoir le vrai. Il a l'air d'un inquisiteur. Si je n'étais dans l'état où je suis, il me ferait peur. Un inquisiteur, lui, ce n'est pas le genre du personnage, au contraire. C'est un homme qui n'a guère eu les faveurs du Saint-Office et qui fut même la cause d'une grande agitation au sein de son ordre. Comment cela? Il a publié à Anvers une histoire de la Compagnie où il parle des origines juives du père Leynès, le premier successeur de Loyola. Tu sais mieux que moi ce que ça a pu donner en Espagne, je devine. La province de Tolède a exigé du père général qu'on fît supprimer du livre cette souillure qui marquait d'infamie la mémoire du grand homme, la réputation de sa famille et l'ordre tout entier. Ben, pourtant, Leynès était juif, c'est bien connu. À ce point, m'a-t-on dit que sa nomination à l'époque avait causé la colère de Philippe II et grand scandale à la cour. Comment a réagi ce Sacchini? Il n'a pas l'air d'un homme à se laisser faire. En effet, il a cité ses preuves qui ne manquaient pas et a soutenu que l'historien avait pour tâche de respecter les faits et non de satisfaire les préjugés. Il a de plus très joliment dit sa fierté d'avoir été le disciple de Leynès, dont la soi-disant tâche n'est une ignominie que pour les esprits vulgaires. À sa place, beaucoup se serait tu, décidément, tes collègues m'étonneront toujours. Que veux-tu, la plus grande gloire de Dieu passe d'abord par celle des hommes, et ceux-ci ne sont jamais si grands que quand ils défendent une idée. Et puis, le jésuite ne peut résister à la séduction d'une idée, c'est là son principal défaut. Il y sacrifie souvent sa vie, pique ça son vœu d'obéissance même. Il me semble que ton Sacchini est bien de cette eau-là, mais dis-moi plutôt ce qui l'amenait au juste. Ben, ce qui l'amène, il me semble que tu dois le savoir mieux que moi. Bien sûr, mais comment m'a-t-il trouvé ici? Voyons, Jean, chacun sait que tu es ici, et depuis toujours. Je n'ai dû le dire à personne, et surtout pas aux jésuites que tu as jadis bien fréquenté. Sans doute, mais j'aurais pu partir ou mourir bien plus vite que je ne vais faire. Ce n'est pas un hasard si ce Sacchini a précisément attendu ce moment pour venir. Le père Guillaume ne répondit pas. Il était à la fenêtre et semblait absorbé par la contemplation du fleuve. Tu ne dis rien. Qui était chargé d'en rapporter à Rome, de faire savoir quand je serai à l'article de la mort? C'est toi, Jean? L'autre se retourna brusquement. « Eh bien oui, c'est moi, et les autres pères avant moi, depuis exactement 24 ans. Et c'est sans doute plus ce tableau qui vous intéresse que moi, malheureux Jean Duchon. Mais tu sais pourquoi, et tu le sais mieux que moi. Je ne sais même pas ce qu'il cache, moi, ce tableau, pour qu'on s'en préoccupe ainsi et qu'on vienne le voir à l'autre bout de l'Europe. Je le trouve même affreux. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais je m'y suis attaché. » C'est qu'ils m'ont sauvé la vie, ces trois rois. Il est vrai qu'ils ont aussi failli me faire passer l'arme à gauche avant l'âge. Enfin, ceux-là, c'était plutôt leurs cousins. Je ne comprends rien à ce galimatia. Je t'expliquerai un de ces jours pour que tu puisses en faire rapport à tes supérieurs. Il eut un petit sourire. Après tout, je leur dois bien ça, ce n'est pas tous les jours qu'un petit chanoine peut berner la Compagnie de Jésus. Jamais peut-être je ne mis tant de zèle à composer qu'en ce temps béni. Le dimanche spécialement, quand je l'avais vue, je m'enfermais dans ma mansarde, l'esprit tout empli d'elle, et restais des heures à mettre ensemble les notes dont je pensais qu'elle pourrait la toucher. Je me disais que la musique était mon seul talent, elle était aussi le seul moyen que j'aurais d'éveiller peut-être son attention. On remarqua ce zèle à la chapelle sans en deviner la cause. Je n'étais point assez sot pour réserver mes compositions à Santa Maria. Je joignais au contraire l'utile à l'agréable, pensant que si mes motets plaisaient à la cour, ils contenteraient aussi ma belle. Souvent, Philippe III en avait la primeur, mais parfois, elle les entendait avant le roi, car sous couvert de ne livrer à la chapelle que des pièces bien faites, dont j'avais pu éprouver la sonorité autrement que sur mon épinette, je prenais un malin plaisir à lui donner la préférence. C'est en ce temps de douce folie, à la deuxième année du siècle, que j'écrivis aussi ma plus belle messe, qui fut profitable tant à ma réputation qu'à mon gousset. Aujourd'hui encore, j'ai l'idée que s'il ne devait rester qu'une chose de mon passage sur cette terre, ce devrait être celle-là. Je lui donnai pour mélodie première le thème d'une chanson de notre grand Lassus, « Un jour l'amant et l'aimé ». Allez savoir pourquoi. que le profane ne voit là nul sacrilège, car c'est pratique courante en notre profession d'user les mêmes airs pour chanter les amours terrestres et divines, et les plus grands l'ont fait, comme feu notre maître Rogier. Quoique écrite à huit voix, cette messe me demanda moins de peine qu'à l'accoutumée, une sorte de flamme m'habitait, moi qui suis par nature peu enflammé. Les accords s'enchaînaient sans mal, et les contrepoints filaient sous ma plume. Mathieu Romarin m'en fit grand compliment et dit haut et fort que lui-même n'avait rien écrit qui par la beauté approcha cette messe. C'était là grande amitié et exagération de sa part, mais il n'eut de cesse de la donner pour toute grande occasion, la fête de Pentecôte, s'il m'en souvient. Sa Majesté se dit fort satisfaite, quelques grands ne purent donc autrement faire que de s'enquérir de ma personne, et le nom de Jean de Namur s'en incrusta assez dans les mémoires pour qu'on pût espérer l'en voir ressortir quand il s'agirait d'accorder quelques pensions. Mon seul regret fut de ne pas pouvoir donner ma messe à sa secrète dédicataire, faute d'un effectif vocal suffisant à Sainte-Marie. Le curé de l'église avait eu vent de ma faveur et s'estimait d'autant plus honoré de me voir si fidèle à sa paroisse. Il crut prudent de conforter cette assiduité en majorant mes gages, ce qui réjouit fort mes compagnons, petits et grands. Ce qu'heureusement il ignorait, le bougre, c'est que je me serais volontiers passé de son argent, que j'aurais même volontiers donné jusqu'à mon dernier maravédis pour musiquer chez lui. J'ai aussi composé alors plusieurs chansons amoureuses dans le genre du madrigal. Certes, j'en avais écrit avant ce temps, et j'en ferai encore après, comme font tous les musiciens de parler français, mais jamais autant qu'en composant « Là, s'il n'est nul mal qui n'a de mal d'amour » ou « Le feu clair de vos yeux », je ne fus tant à ce que je faisais. Certaines de ces œuvrettes ont eu quelques succès, et on les entend encore, m'a-t-on dit, en plusieurs contrées d'Europe. Qui sait si elle les chanta aussi, celle qui les inspira? D'autres déplorent que les meilleurs compositeurs se laissent aller à ces bagatelles au lieu de se borner à travailler à la plus grande gloire de Dieu. Ces pets secs ont bien courte vue de la mémo que cette myopie qui ne donne à d'autres nul repos qu'il n'est peuplé cachot et pourvu bûcher. La joie et la beauté sont partout en ce monde pourvu qu'on les y veuille voir. Les célébrer, c'est aussi prier Dieu qui les a faites, et il a voulu que les musiciens qui ont fait à sa gloire les plus belles oraisons soient précisément aussi ceux à qui l'ont droit les madrigaux les mieux tournés, fussent-ils légers ou même un brin grivois. J'observe aussi qu'on voit dans tous ces recueils de chansons françaises autant, sinon plus, de compositeurs flamands que de sujets de rois de France. Serait-ce que ceux-ci soient moins amoureux et leur renommée à cet égard usurpée? Point sans doute. Je suis d'avis plutôt que nos musiciens dispersés de tout temps dans toutes les cours d'Europe, en Italie, Espagne, Bohême ou Bavière, ont éprouvé plus que d'autres le besoin de conserver une partie d'eux-mêmes en musiquant, en leur parler. Ce fut clairement mon cas et celui de mes collègues en Castille. On m'excusera d'en faire une généralité. J'avais entre-temps trouvé l'occasion d'apercevoir ma belle autrement que dans l'ombre de l'église perdue par les fidèles. Oh, pas loin qu'on se rassure, guère au-delà du parvis, mais du moins pouvais-je la voir là de pied en cap et plus libre de ses mouvements. Elle était au nombre des paroissiens qui s'attardent à bavarder après l'office, comme on fait devant toutes les églises du monde. Nul ne fut plus assidu que moi à ses conciliabules. Cela ne manqua pas d'étonner mes compagnons qui me savaient de nature plus réservée. Ma seule déception était de n'y pouvoir rester autant que j'aurais voulu, pressé que j'étais par l'heure de la messe au palais. Ma dame ne manquait pas ses rendez-vous involontaires, plus bavarde encore hors de l'église qu'au dedans. Elle se mouvait avec grâce, vive et fine de taille. Elle était plus petite que je ne l'avais cru d'abord et devait cette petitesse davantage au bas qu'au haut de sa personne, mais j'étais si épris que ce qui passe généralement pour un défaut majeur, selon les lois de l'esthétique, me semblait un agrément supplémentaire. Souvent, elle partait avant moi. Discrètement toujours, je la regardais s'éloigner, accompagnée de temps à autre par quelques dames de sa connaissance, et toujours par une suivante qui venait avec elle et restait au fond de l'église. Elle avait en marchant cette pose familière qu'on voit plus aux hommes qu'aux femmes, qui fait qu'on va les bras derrière le dos, l'un plié tenant l'autre à hauteur du coude. Un jour que les hasards l'avaient menée avec une autre dame à deux pas de moi, elles saluèrent fort civilement le curé, qui nous entretenait avec son attention coutumière. « Ces dames sont sans doute de votre paroisse ? » demandai-je négligemment au prêtre, prenant soin de mettre sur le même pied ma belle et sa compagne, dont je me souciais comme le colin tampon, craignant surtout que ma voix ne s'étranglât d'émotion. Il me nomma la première, personne dont les mérites qu'il me décrivit abondamment ne suffirent pas à me laisser le nom en mémoire. Quant à l'autre, c'est Doña Hernanque de Fuerte, dit-il simplement, comme si la chose allait de soi, quoique ce nom me fût parfaitement inconnu. Je n'eus dès lors de cesse, maintenant que je tenais un indice, que d'en savoir plus sur elle. J'entrepris d'interroger secrètement des passants dans les quartiers vers lesquels je l'avais vue s'éloigner, me disant que si elle venait à l'église à pied, elle devait habiter non loin. Je m'enquis du sieur Hernanque, supposant, hélas, avec raison, qu'il dut y avoir un mari. On ne tarda pas à m'éclairer. Son hôtel est là, mais vous n'y trouverez pas. Ah non, et pourquoi cela? Mais enfin, me dit-on, comme si je tombais de la lune, vous connaissez le capitaine Hernanque, et vous ignorez qu'il est à l'armée des Pays-Bas. C'est que, comme vous entendez, je viens moi-même de par-delà, répondis-je d'un air entendu, et je pensais qu'il serait rentré avant moi. Ainsi donc, la belle était mariée, et qui plus est avec un officier du roi, lequel, par un clin d'œil du destin, se trouvait en des provinces où j'aurais eu a priori plus de raison que lui de me trouver. Je tentai de m'en consoler, me disant que la chose avait peu d'importance, puisque je n'avais jamais nourri de folles espérances. Je me persuadai que la voir et la servir à son insu, par l'agrément de ma musique, suffisait à mon bonheur. Mon espérance la plus folle se bornait à lui parler un jour, à gagner peut-être son estime, à lui laisser deviner ce qu'elle était pour moi, mais même cela. Quand je connus sa maison, on me vit souvent dans le quartier, perdu dans la foule aux heures de grand passage, ou seul à la nuit, poussé par une irrésistible attraction, la vaine espérance de l'apercevoir à sa fenêtre, ou plus simplement l'envie d'être près d'elle. Je passais là des heures sans nombre, tout à mes pensées, le cœur serré d'une langueur qui me faisait à la fois grand bien et grand mal. Souvent, je la vis sortir, à pied ou en voiture, sans qu'une fois elle m'aperçût. On s'étonnera peut-être de voir à une dame mariée tant de liberté, mais la chose est commune en Espagne, où les femmes vont par les rues à toute heure et y parlent à tout le monde, tout comme les hommes. Ce qui pourrait passer chez nous pour excéder les bornes de l'honnêteté, la bienséance, est devenu en ce pays pratique courante. Les femmes fréquentent seules les lieux publics et s'y font remarquer, comme si elles voulaient par cette façon prouver la pureté de leur sang, car les juifs et les morts, c'est notoire, restent cloîtrés chez elles comme en un couvent. Cette liberté est du reste assez récente, et j'ai moi-même pu éprouver une plus grande licence des mœurs entre les temps du roi Philippe IIe et IIIe du nom. Au risque de faire passer ma réserve pour de la pleutrerie, je dois convenir que la plupart des dames, même les plus vertueuses, pratiquent la galanterie et se laissent courtiser, sans d'ailleurs songer nécessairement à accorder le dixième des faveurs qui sied de leur demander. Leurs maris sont faits à cette mode, et les romans s'en sont 100 fois moqués, même si les jaloux étranglent ou poignardent assez couramment l'épouse qui a blessé leur honneur. Mais qui étais-je, pauvre de moi, pour nourrir l'ambition d'être le chevalier servant d'une grande dame, alors que je devais rogner sur la chandelle ou écrire au verso de vieille musique, faute de maravédis pour m'acheter du papier. Le moindre de ces rubans m'aurait ruiné. Du papier, j'en achetai cependant, et du meilleur, quand me vint l'idée de lui écrire. Quelle fantaisie m'y poussa-t-elle? L'envie qu'elle sache enfin qu'on l'aimait, le besoin de laisser parler autrement qu'en des motets et chansons, ce trop-plein de pensées qui bouillonnait en moi? Sans doute tout cela, et aussi peut-être comme une volonté de provoquer le destin. Bouteille à la mer, truchement du timide que j'étais, du linge même quand je relis les copies des billets que j'ai gardés de ce temps. Ainsi, le premier que je fis porter à son hôtel, le cœur battant par un gamin de la rue, et que je traduis d'une langue castillane que je mis des heures à torturer. Doña Hernanque, il faut que je vous le dise, mais vous m'avez un peu tourné la tête, et un petit fantôme qui vous ressemble flâne depuis quelque temps sur le fil de mes jours. Dois-je l'en chasser? Je n'en ai pas le cœur, car vos beaux yeux ont un pouvoir singulier. Et tant pis pour moi si je joue avec une dague en feignant d'ignorer que la pointe en est acérée et qu'elle peut me faire mal. Je ne sais qui vous êtes, promise au couvent ou mère de 6 enfants, et mieux vaut sans doute que je n'en sache rien. Mais penser à vous donne aux choses du quotidien un subtil parfum aigre-doux, tout à la fois philosophique et délicieux. Soyez-en remercié. Mon état m'interdisant malheureusement toute ambition, je ne prétends à d'autre titre que celui dont je signe. Le secrétaire de la confrérie de vos admirateurs anonymes. D'autres suivirent au fil des mois, notamment après certains voyages avec la cour qui m'éloignèrent de Valladolid. Comme j'ai dit, la cour se déplaça quelquefois, autant qu'elle fût établie en cette ville, et ce, à mon contentement, car j'ai toujours eu plaisir à voyager. L'inconfort et les fatigues de ces pérégrinations étaient du moins compensés par leur sûreté. C'est que les routes d'Espagne sont peuplées de brigands et l'on risque infiniment plus à les courir seuls qu'à suivre les cortèges de la cour. La nature n'a pas comblé ce royaume des mêmes avantages que nos provinces ou que celles de France, de Savoie ou de Franche-Comté, et la main de l'homme n'a rien fait pour y remédier. Les montagnes qui le découpent en tous sens ne sont ni plantées d'arbres ni peuplées de villages, et c'est à peine si on y croise quelques bêtes en pâture. Seuls les environs des villes et des faubourgs sont cultivés. Pourtant, le pays, pour peu qu'on l'arrose, est prodigue de légumes et grains de toutes sortes. J'ai vu en Nouvelle-Castille une multitude de puits que l'on nomme des norias, d'où des mules font monter l'eau au moyen de pots de terre. Il suffirait sans doute de peu de travail pour rendre cette contrée plus prospère et plus riante qu'elle n'est. Cependant, la fierté de ces naturels s'y oppose. Ils préfèrent courir sous le soleil comme soldats en campagne, la rapière au côté et l'estomac dans les talons. J'ai vu ainsi Avila, froide et venteuse, perchée sur les plateaux de la Meseta. Je chantais un Te Deum dans l'antique cathédrale, dont le chevet crénelé fait office de tour aux grandes murailles de la ville. Quoique fort peuplée de morts, du moins en ce temps-là, Avila fut patrie de Thérèse de Jésus, qu'on tient en Espagne en grande dévotion, et qui fut faite sainte voici peu, 40 ans seulement après sa mort. À peu de lieues de Valladolid, je vis aussi plusieurs fois Salamanque, ville peuplée d'une multitude de clercs et d'étudiants venus de tout le pays à son antique université. Entre mille splendeurs, on y voit deux cathédrales, l'ancienne et la nouvelle, l'une écrasant l'autre, blottie dans son bas-côté, ainsi qu'un pont dont on dit qu'il fut construit au temps des Romains, ce que j'ai peine à croire. On raconte en cette ville l'histoire de Maria la Brave, au fait du temps passé auquel j'accorde quelques créances, d'autant qu'il est dans le caractère espagnol. Cette Maria avait deux fils qui furent tués par une bande rivale pour une partie contestée au jeu de paume. Cette femme revêtit l'armure et s'en fut poursuivre les meurtriers. Elle les tua et déposa leur tête sur la tombe de ses propres enfants. Le voyage le plus long que je fis en ce temps nous mena jusque Tolède, à une douzaine de lieues du palais d'Aranjuez, vieille résidence royale qu'avait fait embellir Philippe II au temps où il ne pensait pas encore à l'Escorial. C'est une ville incomparable, faite d'une multitude de monuments et de ruelles tortueuses courant sur un roc presque entièrement cerné par le Tage qui roule ses eaux verdâtres au fond d'un profond ravin. Tolède fut aussi capitale du royaume avant d'être détrônée par Madrid au règne précédent. La gloire des cités, à la mesure de celle des hommes, est éphémère. L'archevêque de Tolède est primat d'Espagne, et cette ville renferme un tel nombre de monastères, nonnes et religieux, que certainement, en nul endroit de la chrétienté, on en peut autant trouver. La cathédrale est le plus grand et le plus beau sanctuaire qui se puisse voir, et renferme une quantité de richesses qui est sans nul doute unique au monde. Il n'est qu'un homme dont on parle à Tolède, c'est un vieux peintre appelé El Greco, pour ce qu'il serait né en Crète et dont la ville a fait la fortune. Je ne l'ai pas vu en personne, mais on m'a montré partout ses peintures. Ce sont celles d'un fou qui invente des couleurs violentes qu'on ne voit heureusement nulle part dans la nature et pour qui les hommes ont mine tourmentée et taille d'asperge. Au cours de ces voyages, je continuais à écrire à ma belle qui devait sans doute s'étonner de voir l'hôtel des postes tellement affairé pour elle. Je joignis à l'un de ses billets une musique écrite de ma main, chanson en langue castillane que nul autre qu'elle n'a pu entendre. Mon audace, à coup sûr, lui autorisait cette fois certains rapprochements propres à l'éclairer sur cette mystérieuse confrérie. J'accompagnais les notes de ce mot. « Doña Hernanque, en tant que secrétaire de la confrérie de vos admirateurs anonymes, je manque décidément à tous mes devoirs en vous privant depuis si longtemps des hommages qui vous sont dus et dont vous n'avez pas tort de vous soucier sans doute comme un poisson d'une pomme. C'est que je marche sur les traces de Marco Polo et la petite image de vous que je cache en mon jardin secret a beaucoup voyagé ces derniers temps. Je l'ai vu planer dans des terres brûlées, affronter le vent des montagnes, flâner aussi parmi les orangers. Je ne sais pourquoi, je vous imagine musicienne, luthiste peut-être, plutôt flûtiste. Je fabule sans doute, mais je ne crois pas un instant que vos goûts musicaux s'arrêtent à la Sardane. Aussi, à défaut de vous emmener en mes périples, du moins voudrais-je vous faire voyager en musique. Ne me refusez pas ce petit bonheur innocent de vous voir jouer ces musiques et de promener vos oreilles en des paysages que j'ai dessinés pour vous. Je ne vous importunerai pas davantage cette année. Soyez heureuse. Et cela dura des mois, une année bientôt. Doña Hernanque, Voici un an déjà que la confrérie de vos admirateurs anonymes vit le jour, ou du moins qu'on vous le notifia. Le petit fantôme qui vous ressemble se porte mieux que jamais. Un exil passager, loin de tout, de tous, et d'abord de vous, le fait volter ces temps-ci plus allègrement encore qu'à son habitude, ce qui n'est pas peu dire. Vous conviendrez que nous ne vous avons guère importuné. Nous n'en savons donc pas plus de vous, sinon par quelques bribes et morceaux tombés au hasard derrière vous. L'imagination y gagne, ce qui perd la curiosité. La discrétion est la règle d'or de notre confrérie. Ses membres ignorent ainsi jusqu'à votre âge, au prix de ne pouvoir célébrer le jour qui vous vit naître. Savez-vous le pouvoir de vos beaux yeux, qui fait chez vos admirateurs s'affoler le pouls et tressauter le cœur, phénomène aussi doux qu'incoercible et qui tend à fonder l'opinion des anciens, selon laquelle ce muscle est bien le siège du sentiment et non la cervelle. Comprenez, pardonnez qu'on en abuse parfois, cela nous fait tant plaisir et vous coûte si peu. Où que vous alliez, quand on ne vous voit plus, sachez qu'on envie les naturels des pays qui vous voient passer, vous tenant le bras de la main gauche, comme à votre habitude, sur la jolie courbe de votre robe. Croyez qu'on vous bénit et qu'on pense bien à vous, par qui le monde que Dieu a fait est un peu plus beau encore. Tous ces sentiments qui m'agitaient et ce zèle à composer qui me prenait ne pouvaient échapper à Nicolas. Ce que Philippe Dubois n'avait pas remarqué, alors qu'il allait avec moi à Santa Maria, lui l'avait deviné sans y mettre les pieds. C'est que nous nous connaissions depuis bientôt 20 ans et qu'on ne pourrait guère s'imaginer d'autres personnes plus intimes que nous par la communauté des pensées et la force des épreuves partagées. Cette familiarité avait cependant des limites que nous assignait une sorte de pudeur. Nicolas plaisait naturellement aux femmes, d'autant qu'il ne mettait à leur commerce aucune de mes timidités. Il ne m'en entretenait pas, cependant, pas plus que je ne lui contais mes émois. Nous ne parlions de ces choses que pour en plaisanter. Nos mots d'esprit laissaient perplexes ceux qui nous connaissaient, et même entre nous, nous entretenions une certaine équivoque quant à la part du vrai et du faux. Il m'en parla donc un jour, sous notre ton habituel, non par moquerie, mais une fois encore par naturelle réserve, comme je l'eus fait à sa place. Je lui racontai tout, c'est-à-dire le peu qu'il avait à raconter. Connaissant ses bonnes fortunes, j'étais évidemment un peu gêné de n'avoir pas plus à lui dire après tous ces mois où la passion m'avait pris. Il connaissait ma timidité, cela n'empêcha pas d'être interloqué. « Comment ? Tu l'aimes comme un fou et elle n'en sait rien ?»« Elle s'en doute peut-être, je t'ai dit que je lui avais écrit, et quand son regard maintenant croise le mien, il s'y attarde, je crois qu'elle m'a deviné. » « Mon pauvre Jean, tu cherches ton malheur, tu n'arriveras à rien ainsi. » Bah, je me moquais d'arriver à quoi que ce fût. Je tentais de lui faire comprendre. Mon sentiment n'avait rien à voir avec la basse galanterie. Il eut alors une question plus dure. « Penses-tu à elle quand tu vas baiser les filles dans les couterias ?» Car, je dois l'avouer, malgré ce qui m'était arrivé, j'avais conservé à Valladolid mes usages de Madrid. Je n'en étais pas fier, je sortais de ces mauvais lieux avec comme un dégoût de moi-même, d'autant que les filles débordées par l'ouvrage n'avaient pas ici cette amicale familiarité que donne l'habitude et qui confère à la chose un semblant de sincérité. Mais la chair est faible et je ne devais rien à personne. Je le lui dis. Ah, c'est ton affaire, en effet, de dépenser les gages à des choses qu'à notre âge, il est sot de payer, rétorqua-t-il. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Eh bien, « puisque tu veux le savoir, je ne pense pas à elle quand je vais là-bas, surtout pas. » C'était vrai. Jamais je n'avais pensé à elle en ces ébats, et une sorte de respect sacré me l'aurait interdit, si même l'idée m'en était venue. « Mon bon Jean, tu m'étonneras toujours, » conclut-il en souriant. Je savais pourtant qu'il avait raison, que ces formes de l'amour, la plus vile et la plus noble, étaient deux faces d'une même chose, mais c'était ainsi, je n'y pouvais rien. Très tard, ce soir-là, dans notre chambre, nous parlâmes d'elle. Je donnais libre cours à ma confidence, comme soulagé de parler, après avoir trop longtemps gardé tout cela par-devers moi. Je lui dis son nom, sa maison, l'état de son mari, tout ce que je savais d'elle. Et ce qui devait arriver, arriva. Au retour d'un de ses voyages, et comme il y avait 4 jours à attendre jusqu'à la messe à Santa Maria Antiqua, j'allais la nuit errer longuement près de l'hôtel d'Hernanque, sinon pour deviner madame à sa fenêtre, du moins pour me sentir près d'elle. Je me faisais à la fois du tort et du bien à ces promenades nocturnes, sursautant aux ombres parfois inquiétantes qui glissaient dans les rues, m'illusionnant de 1000 idées insensées. Je rêvais comme un enfant de quelque péril dont je la sauverais, recueillant en imagination le merci de ce service et de mon affection. Que n'en ai-je dispersé par la pensée de ces malandrins imaginaires s'en prenant à elle, alors qu'ils m'eussent sans peine couché sur le pavé, peu gaillard que j'étais à ces sortes de combats. Et combien de fois ne l'ai-je pas sauvé de sa maison en flammes, tombant pâmoison dans mes bras. Il pouvait être 1 heure après minuit, et il n'y avait plus nulle lumière dans la maison. Je m'apprêtais à rentrer dormir chez moi le reste de la nuit, quand soudain une porte s'ouvrit à l'arrière de l'hôtel. Le bâtiment était vaste et donnait à la fois sur 3 rues. Sur 2 côtés, les entrées étaient larges assez pour le passage des voitures. Le troisième n'était percé que de 2 portes, où l'on ne voyait jamais personne, car les gens de la maison passaient aussi par l'un des grands porches. Je restais dans l'obscurité, pouvant voir sans être vu. Une silhouette se dessina dans l'ombre. C'était celle d'un homme, dissimulé sous une cape et un large chapeau. Il sembla observer la rue déserte, mais ne s'y avança pas, sinon pour s'éloigner à quelques pas de la façade. Il s'écoula quelques instants qui me parurent assez longs, puis une fenêtre s'ouvrit à l'étage, une femme parut. C'était elle, bien sûr. Je la voyais distinctement, car le haut de la maison était exposé à la lune quand la rue restait sombre. Mais avais-je même besoin de cela pour la reconnaître? Elle fit un signe à celui qui se trouvait en bas, lequel agita son chapeau d'une main, faisant de l'autre ce geste familier qu'ont les amants pour s'envoyer dans les airs des baisers. Tout de suite, la fenêtre se ferma et l'homme s'éloigna d'un pas rapide. Je le suivis. Il y a des instants de vive émotion où le corps et l'esprit sont portés par une vivacité extraordinaire, et j'imagine que nombre de soldats dans le danger de la bataille ne doivent leur salut qu'à cette faculté qui décuple leur sens de façon si singulière. Je suivis l'inconnu avec l'habileté d'un espion de métier, courant silencieusement d'un mur à l'autre sans même songer à m'essouffler. En même temps, 1000 pensées me venaient. Ainsi donc, madame avait un amant. Celle que j'avais placée au plus haut de mon estime et de mon adoration se compromettait à recevoir la nuit un homme en sa maison quand son mari était loin. Pourtant, je le jure, pas un instant, la chose ne me choqua, et si je souffris en cet instant, ce fut de n'avoir pas été plus tôt celui que je suivais. L'homme allait promptement, suivant par la cathédrale et la San Gustias le même chemin que j'aurais emprunté pour rentrer chez moi. Quand il eut dépassé San Gregorio pour prendre vers le couchant la rue tournant vers la rivière Pisuerga, je m'étonnais. Cette voie ne menait nulle part, sinon dans le quartier où je logeais, fort peu séant aux gentilshommes. Quel était donc ce sortilège? Je me faisais de plus en plus l'impression de me suivre moi-même, et par le pouvoir de l'imagination, hélas plus présente dans mon aventure que le monde tangible, c'est moi aussi que je voyais rentrer de cette équipée amoureuse et nocturne. Je n'étais pas loin du compte. Il me fallut cependant voir l'inconnu s'arrêter devant ma propre maison, tomber pèlerine et chapeau avant d'ouvrir la porte pour comprendre ce que j'aurais dû deviner. C'était évidemment Nicolas. « Ne fermez pas la porte, lui dis-je, je rentre aussi. « Ah, c'est toi ? En voilà 1 heure pour un honnête chrétien, plaisanta-t-il. Où es-tu encore allé faire répaille ?»« Je n'ai pas envie de rire. Je sais tout, je t'ai suivi. »« Ah, tu m'as suivi, » fit-il, pour une fois décontenancé. « Non, enfin, pas vraiment, mais je t'ai vu. C'est du pareil au même. » Nous montâmes l'escalier dans un long silence. Ce fut moi qui le rompis. « Je te croyais mon ami. »« Mais je suis ton ami. » Nous, nous sommes plus que des amis, plus que des frères, tu le sais, nous avons tout fait ensemble, tout partagé depuis 20 ans. Ce que j'ai fait, c'est comme si toi, tu l'avais fait, voilà tout. Nous l'avons aimé ensemble, chacun à sa façon, et jamais femme n'a été mieux servie qu'elle, si on fait la somme de ce que nous l'avons aimé, toi dans ta tête et moi dans son lit. Ces paroles avaient failli me toucher. J'ai souvent pensé à cette nuit-là. Aujourd'hui encore, je la revis en pensée, sans que la sensation que j'en ai se soit amenuisée d'un iota. Cette idée d'un amour idéal mené à son terme par 2 amis parfaits, à couleur de vérité, et pourrait certes faire le sujet de ces sortes de romans qu'on aime fort en Espagne. Me sentant troublé, il insistait. « N'oublie pas, c'est elle que j'ai choisie. Les jolies femmes ne manquent pas en cette ville, j'aurais pu en séduire 1000 autres, tu le sais. » Mais non, le piège était trop grossier. Les choses ne s'étaient pas passées ainsi, car pour arriver à ses fins, il avait profité de mes confidences. C'était froidement qu'il m'avait volé une part de moi-même, la part la plus précieuse. Et puis, diable, je n'étais pas un estropié dont il fallut supplier aux ardeurs défaillantes. Il m'assortit cette belle parole, mais les imaginer dans les bras l'un de l'autre, deviner qu'alors sans doute il riait de moi, tout cela me fit fulminer. « Tais-toi, je n'ai pas envie d'en parler. » Puis après un moment, je n'ai plus envie de te parler. À peine couché, je fus pris d'une crise d'étouffement telle que jamais encore je n'en avais connue. Mon corps fatigué s'était trop tendu et se relâchait d'un coup avec tous les embarras saisissants de mon mal. Nicolas s'inquiétait, me croyant rendre l'âme devant lui. Maladroit, il voulait me porter secours. C'était inutile. Fiche-moi la paix, parvins-je à hurler. Fous le camp, tu m'entends? Fous le camp! C'est ça, du fond, eh ben, crève donc tout seul, je fous le camp! Nicolas claqua la porte et ne revint pas. Il trouva à se loger ailleurs et ses affaires furent enlevées de la chambre un jour où je n'y étais pas. Ainsi finirent abruptement 20 ans de profonde amitié. À compter de ce jour, Nicolas Dupont ne fut plus pour moi qu'un étranger, plus souvent un rival. Je me fis prêtre quelques mois après cette mésaventure. J'aurais beau jeu de présenter la chose comme le sacrifice de ma vie détruite par cet amour malheureux. Je pourrais me faire passer pour quelque sublime héros de roman, ensevelissant dans les austérités de la religion une existence devenue insupportable, mais on aurait tort de me croire. À vrai dire, j'envisageais déjà depuis longtemps de prendre l'habit. On dit qu'en Espagne, la religion est un moyen de vivre et que beaucoup se font religieux comme ils prendraient un autre métier. Ce n'est pas faux. J'avais certes un état, mais je voyais trop chez mes collègues plus âgés quelles incertitudes ils comportaient. Combien d'entre eux ne tiraient-ils pas le diable par la queue en dépit de tous les trafics petits et grands auxquels ils se livraient? Du moins, ceux qui avaient opté pour l'état religieux pouvaient-ils compter sur quelques modestes prébendes propres à grossir les gages aléatoires de la chapelle? D'ailleurs, je ne me voyais pas marié, d'autant que les chantres flamands ne l'étaient en ce pays que pour avoir amené avec eux leur épouse. Je ressentis aussi que le moindre avantage de la condition ecclésiastique n'est pas la considération qu'on lui porte. L'avantage que chez nous, les padres sont en ce pays partout honorés, bien vus de tous, et ce qui vaut pour l'Espagne est plus remarquable encore à Valladolid. J'avais été jusque-là, et tout au cours de ma vie, raisonnablement pieux, je ne le devins ni moins ni davantage. On ne compte plus de curés vivant chez des concubines, les mules du diable, ainsi qu'on les nomme joliment en Castille, ayant même avec elles des enfants. Jamais je n'entretins telle écurie, jamais non plus je n'abandonnais les penchants inavouables que je pouvais avoir, péché somme toute véniel, car ne causant tort à quiconque, et dont seul-là je me détourna. Je suis en tout cas d'avis que les quelques honneurs et avantages qu'allait me valoir ma carrière de musicien furent dus à ma condition ecclésiastique autant qu'à mes mérites, ou du moins que sans l'une, les autres eussent été plus médiocrement reconnus. Je fus surpris du peu d'instruction que me demanda le sacerdoce, ce que je savais déjà le latin et que je connaissais par le menu les choses de la religion pour y avoir été depuis mon plus jeune âge intimement mêlé. Je fus ordonné par l'évêque de Valladolid en sa nouvelle cathédrale avec un grand concours de fidèles, comme l'Église le recommande. Ce sacrement est par nature assez long. Le futur prêtre est présenté, subit l'interrogatoire de l'évêque, puis tous récitent les litanies des saints avant que le mystère du sacrement ne s'accomplisse par l'onction du Saint-Crème. Il reçoit alors la patène et le calice, offrande du peuple saint qu'il présente à Dieu. La célébration dura d'autant plus ce dimanche de mai 1603 que s'y trouvaient avec moi nombre d'autres ordinants. Attendant mon tour, je restais longtemps couché sur le pavé, les bras en croix. Je ne suis pas homme à me laisser emporter par l'extase, en dépit de la solennité de la circonstance, une fois dites et bien sincèrement les prières que je m'étais imposées, je m'autorisais donc quelques distractions, laissant mes yeux entr'ouverts. À quelques pas de moi, au premier rang de l'assemblée, se trouvait une femme voilée. C'était elle, Doña Hernanqui. Je la reconnus immédiatement. En dépit de cette coiffure inhabituelle, elle qui était toujours nu-tête. Pourquoi était-elle là, ainsi dissimulée? Mon cœur chavira d'un coup, battit la chamade, 1000 pensées contradictoires se heurtèrent en mon esprit, me distrayant d'un recueillement où la moindre des choses était pourtant que je m'abandonnasse. Sans doute me pensait-elle poussée dans les ordres par le désespoir d'un sentiment trompé? Venait-elle contempler son œuvre par cruelle et froide cruauté? Mais alors, pourquoi se serait-elle voilée? Était-elle poussée là par quelque amitié, quelque remords peut-être? Mon adoration maladroite avait-elle malgré tout éveillé en elle quelque tendresse? Conscient de commettre grand péché d'impiété, je gardais les yeux fixés sur elle, en prononçant mon tour venu, les paroles du sacrement. Quand tant d'autres futurs curés de campagne annonnaient par cœur un latin mal dégrossi, je les dis avec l'assurance d'un clerc pour qu'elle m'entendît bien, qu'elle sentit que je buvais jusqu'à la lie le calice qu'elle m'avait forcé à prendre. C'était là silencieux mensonge, je le sais, et je ne sais si une vie de sacerdoce dévouée me vaudra devant Dieu le pardon de cet instant d'orgueil. La vie poursuivit son cours, le soleil continua à se lever matin et à se coucher le soir, indifférent aux agitations de ces fourmis que nous sommes. La cour vivait des temps dont l'insouciance contrastait singulièrement avec les austérités du règne précédent. Tout était motif de fête, à commencer par les naissances des enfants. Sa Majesté Philippe III se révéla un géniteur actif et fit en peu de temps 8 enfants à la reine Marguerite. Naquirent ainsi à Valladolid en 1603 la princesse Anne, qui devait épouser Louis, roi de France et 13e du nom, et 2 ans plus tard le prince Philippe, à son tour héritier de l'Espagne. Ces 2 princes règnent aujourd'hui, chacun 3e que je connus de mon vivant en l'un et l'autre royaume, et sans doute dernier. Je cessai de chanter l'office dominical à Santa Maria pour dire moi-même messe basse dans une autre chapelle. À part cela, peu de choses changea dans ma vie, j'étais un peu plus seul et contrit de ces peines. Je recueillis par contre plus de fruits de mon travail, comme si la Providence, en sa sagesse, m'avait pris d'une main ce qu'elle me donnait de l'autre, et sans doute jugeait plus convenable. Je ne sais si je gagnais à ce change qui me laissait un goût de trop peu, car l'homme est ainsi fait qu'il prise toujours plus ce qui lui manque que ce qu'il a. Je n'avais pas borné mon zèle épistolaire de Valladolid à ces malheureux billets anonymes à Doña Hernanque, mais j'avais poursuivi avec ma sœur cette régulière correspondance entreprise à Madrid. Marguerite avait sollicité de ma part quelques secours pour nos frères, tous jeunes hommes à présent, mais trop tôt orphelins et laissés dans la vie sans état véritable. Sans doute le négoce de la boucherie n'était-il pas d'un rapport suffisant au soutien d'une si nombreuse famille, à moins qu'elle ne voulût m'en faire partager la charge sur l'idée fausse qu'elle devait se faire de ma fortune. Comme j'étais alors sans autre moyen que ceux de ma propre subsistance, j'avais fait appel pour eux à la protection du comte de Berlaymont, dont les marques d'amitié m'avaient naguère laissé l'espérance. Hélas, les grands ont souvent courte mémoire, et sans doute celui-là avait-il oublié des promesses pourtant faites jadis solennellement sur le cadavre de moult bouteilles vidées avec son ami musicien. Sans trop y croire, j'adressai à Sa Majesté une supplique, invoquant le besoin où étaient les miens et les services que j'avais depuis tant d'années rendus à la couronne. J'allais obtenir dans cette démarche un soutien inattendu en la personne de Gaspar de Aratia. Celui-ci exerçait à la Capella Real le modeste emploi de copiste et passait pour jouer du luth, quoiqu'on n'entendît jamais. Il devait être secrètement bien davantage, car on le flattait et redoutait tout à la fois. Je l'ai toujours soupçonné d'être un familier de l'Inquisition, et j'ai dit que je ne le croyais pas étranger à la triste fin de mon maître Rogier. Je ne lui avais donc jamais montré grand attachement. J'appris cependant de sources sûres, en l'occurrence par un billet de lui que me fit voir Mathieu et que je copiais, qu'il me tenait en grande estime. Ainsi écrivait-il et signait de sa main, « Moi, Gaspar de Aratia, luthiste et comptable de la chapelle royale de Sa Majesté, certifie que le contenu de cette requête est en tout point exact. Voilà 19 ans que Jean de Namur sert Sa Majesté et mérite qu'il la garde à son service et pourquoi il ne reçoit encore nulle pension. Il remplit toujours sa charge avec grande exactitude. C'est un très habile et très grand compositeur au point qu'il peut prétendre à la direction de n'importe quelle chapelle dans toute l'Espagne. » Ce que j'atteste personnellement à Valladolid le 1er janvier de l'an 1603. C'est ainsi que Sa Majesté me gratifia d'une pension de 100 ducats sur l'évêché de Cordoue. 100 ducats, c'est une somme qui fait au choix, quand on y pense, 50 belles pistoles d'or ou plus de 1000 réaux d'argent. Je me voyais riche et je l'étais en effet au regard de ce que j'avais été. Je pus bientôt porter secours aux miens et par la même occasion expérimenter l'habileté des banquiers. Contrairement à ce que, innocemment, je pensais, ils n'ont nul besoin pour transporter de l'or au-delà des mers et des montagnes, d'en charger un courrier courant mille dangers. Non, ces gens se contentent d'un simple billet de leur main à un collègue en un autre pays, lequel contre alors en confiance à la personne qu'ils auront désignée. Ils retirent pour prix de leur peine le poids du billon pour celui de l'argent, mais on est bien aise de le leur laisser pour prix d'un tel service. Cette faveur, quand elle fut connue, me valut quelque envie, à commencer par la jalousie de Nicolas Dupont, qui dit mesquinement à qui voulait l'entendre que la fortune souriait toujours aux cocus. Cette méchanceté me prouva, s'il le fallait encore, que notre inimitié était à jamais consommée. Plus tard, on tenta aussi de me retirer d'une main ce qu'on me donnait de l'autre, en ne me payant plus le pécule de 50 ducats que, jusque-là, je recevais chaque année aux fins de me vêtir. J'en appelais de rechef à Philippe III, et Gaspard d'Aratia établit pour m'appuyer un certificat fort semblable au premier, me jugeant homme habile pouvant prétendre diriger les plus grandes chapelles d'Espagne, ayant toujours servi avec grande exactitude et attention, et méritant que Sa Majesté lui fasse cette faveur. J'eus gain de cause en cette affaire aussi. Ces appréciations m'avaient flatté. Mathieu me fit cependant remarquer que cette formule, jugeant le postulant digne de diriger la chapelle de son choix par tout le royaume, n'était somme toute qu'une antienne assez usuelle et qu'il ne fallait pas m'en gonfler le col. En effet, Nicolas Dupont bénéficia exactement du même avis lorsqu'il sollicita un revenu pour ses 20 années de service à la chapelle, et si le compliment d'Aratia me semblait fondé pour lui plus encore que pour moi, il ne reçut point la pension. Le copiste était, je crois, assez fin pour délivrer ses opinions par deux billets, l'un qui caressait le postulant et se donnait pour bienveillant, l'autre, qu'on ne voyait pas, qui donnait son sentiment véritable. Nicolas ne souffrit guère de ce refus, car il obtint à la place nouvelle licence de faire commerce du cuir et gagna à cette industrie plus d'écus que ne me rapportent les prébendes. Pour en terminer avec lui, car le souvenir de ces années m'ôte le goût d'en parler encore, j'ajouterai qu'il se fit prêtre comme moi, ce qui dénote un certain aplomb. Enfin, il allait plus tard donner raison à Aratia en devenant maître de chapelle du couvent de l'Incarnation que la reine Marguerite fonda à Madrid. En ce temps où je perdis l'amitié de Nicolas et quelques-unes de mes illusions, je gagnais celle de quelqu'un des plus extraordinaires qui se puisse rencontrer. J'ai un peu honte de ne laisser derrière moi que ces mémoires, qui ne sont que celles d'une vie bien ordinaire, quand j'aurais pu raconter celle de cet homme dont l'existence fut 100 fois plus que la mienne, emplie de singularités et de faits incroyables. Je l'aurais fait peut-être si Dieu m'en avait laissé le temps et surtout si j'avais pu revoir encore leur héros pour m'en faire compter le menu. La mode est en Espagne au roman en comptant les mœurs de ces coquins nommés picaros. On rit à leurs aventures fantastiques dont le train vertigineux étourdit le lecteur. Pour celui dont je parle, la réalité cependant dépasse les contes les plus extravagants et le peu que j'en vais relater, pour incroyable qu'il soit, n'est que vérité vraie. L'homme avait nom Contreras, et quand je l'ai connu, dans la circonstance que je vais dire, il n'avait que 21 ans. À cet âge, il avait cependant davantage vécu que ce qui emplit l'ordinaire plusieurs vies d'hommes. Nos destins s'étaient croisés par hasard dans ces rues de Valladolid que j'avais continué à courir nuitamment, bien que mes pas ne me menacent plus guère là où mes pensées me conduisaient naturellement naguère. Dans un passage obscur, je m'étais trouvé comme menacé par deux larrons. Je ne m'en étais guère alarmé, j'avais déjà fait de telles rencontres, mais ces sortes de gens n'en voulaient généralement qu'à une bourse que je ne portais pas. J'avais toujours aussi en ce temps, pour les raisons que l'on sait, comme un désintérêt pour ce qui pouvait toucher à ma vie. Quoi qu'il en soit, cette agression n'avait pas pu être fort loin menée, car une sorte de capitaine qui passait par là avait d'un coup d'œil compris la scène et fait fuir d'une simple menace cette importune compagnie. Je connaissais assez les gens d'épée et me dis que j'avais échappé à ces modestes coupeurs de bourse pour tomber aux mains d'un tire-laine plus audacieux. Mais non, l'homme se présenta d'un large et virevoltant coup de chapeau. « Alonso de Contreras, pour vous servir !» Je me présentai à mon tour, usant aussi du petit deux, sans succès démesuré toutefois, car les terres de Namur devaient être à mon sauveur aussi peu connues qu'à moi celles de Contreras. « Vous plaît-il que nous poursuivions les présentations entre quelques tavernes? Il n'est qu'1 heure du matin, voilà que je débarque de Berbérie avec 14 esclaves et assez d'étoffes pour remplir un magasin, et mon malheur est de ne connaître en cette ville personne avec qui écluser un godet. « Je suis votre obligé, répondis-je, permettez que je vous régale. » Je me demandais à quelle énergumène j'avais affaire pour se présenter ainsi, et il aurait pu prétendre tomber de la lune sans me convaincre davantage, ce en quoi j'avais parfaitement tort. Contreras parlait de lui, mais avec une sorte de modestie qui rendait naturelles les choses les plus extravagantes. Il était plus jeune que moi, de 7 ou 8 ans. Quand il se présenta, il ne put se départir de ce travers qu'ont tous les Espagnols d'affirmer la pureté de leur lignée. Mes parents sont vieux chrétiens, sans mélange de races mauresque ou juive, sans condamnation du Saint-Office. Ils furent mariés, comme le recommande notre Sainte-Mère l'Église, 24 ans, durant lesquels ils eurent 16 enfants. Quand mourut mon père, il en restait 8, 6 garçons et 2 filles, et moi, j'étais l'aîné. Je le rassurais sur la pureté de ma propre race et mes opinions religieuses, même si mes défunts parents n'avaient pas été si prolifiques que les siens. Nous nous découvrîmes une commune infortune. Contreras venait de Malte, où, au retour d'une expédition, il avait surpris dans les bras d'un camarade la fillette qu'il entretenait. Je lui envoyai un coup d'épée qui le mit à 2 doigts de la mort. Le morveux en a réchappé, et il s'est sauvé dès qu'il a pu, de peur que je n'achève le travail. Je lui confiai en 2 mots l'aventure assez semblable qui m'était arrivée, en m'avantageant un peu, car je donnais Doña Hernanque pour ma maîtresse, ce qui était à tout le moins présomptueux. « Eh, vous avez tué le coquin !» conclut-il d'un air entendu, comme si la chose allait de soi. « À vrai dire non, c'est que je suis musicien et non soldat, et l'on tue assez rarement dans ma profession. »« Après tout, dit-il conciliant, on a bien tort de se bidier pour cette dinde alors qu'il y en a tant. La mienne a eu beau me faire 1000 simagrées pour se rabibocher, je l'ai envoyé paître. J'ai assez promptement trouvé le remède à ma tristesse auprès de ses semblables, et je l'ai pris plutôt 10 fois qu'une, vous aussi sans doute. Là encore, au risque de le décevoir, je lui avouai que j'avais opté plutôt pour les consolations de l'état ecclésiastique. Il n'en rit pas, comme on aurait pu le craindre. Curé, diandre, c'est autre chose. Puis, après un moment, sans rire, je pense aussi à me faire moine. Je suis souvent là de tuer, de batailler, de courir les mers pour faire des fortunes que je perds au jeu ou chez les putes. Il me semble que je serais plus heureux dans quelque ermitage à profiter calmement des jours que Dieu me donne, à faire le bien plutôt que le mal. Je me dis parfois que s'il m'a fait échapper à tant de périls, c'est pour me laisser le temps de me racheter. Mais je dis cela alors que je suis venu jusqu'ici pour me faire nommer capitaine. Il est trop tôt sans doute. « Vous parliez de tuer, vous avez donc vraiment tué des hommes ?»« Ah, mon pauvre ami, si on devait ressusciter tous ceux que j'ai oxy, on en ferait un régiment. Et j'ai commencé jeune, je ne m'en flatte pas, mais j'ai tué mon premier homme à 13 ans. C'était un camarade d'école qui m'avait humilié. La justice a eu pitié de mon âge et j'ai seulement dû passer 1 an à Avila, dans un couvent. Cela ne vous a pas détourné, à s'il paraît, de la carrière des armes ?»« Certes non. » À mon retour d'exil, ma mère voulait me faire orfèvre. Eh bien, je suis resté apprenti 1 seul jour. Ma patronne m'a envoyé puiser de l'eau, et ce n'est point un travail d'orfèvre, ni encore moins d'honnête homme. Je l'ai planté là avec ses sous, et je suis parti. Les occasions ne manquaient pas, car c'était l'année où l'archiduc Albert recrutait ses régiments pour les Pays-Bas. Mais j'y étais, c'était à Valence, en 99. Nous y étions, nous nous sommes peut-être vus. Non point, c'était avant cela, je ne parle pas du mariage de ce prince avec l'infante, mais de la précédente campagne où l'on partit de Barcelone. J'ai pu me faire engager dans les cuisines du régiment et m'embarquer pour Modène. En route, j'ai vu prendre un navire, je ne sais plus s'il était turc, maure ou français, mais ça m'a donné le goût de l'artillerie et des choses de la mer. En Italie, j'ai demandé à l'archiduc à être incorporé dans une compagnie, ce qui fut fait, quoique je n'eusse alors que 14 ans, et je pris la route des Pays-Bas. Cela devenait intéressant. Je lui appris que j'étais moi-même de ces pays, ce qui l'étonna fort. À mon parler, il m'avait cru espagnol, et je trouvais la confusion plutôt flatteuse. Il y a tant d'accents et de dialectes en ce royaume qu'un chat n'y retrouverait pas ses jeunes. Puis vous parlez le langage de la cour qui sonne mieux que celui des armées. Ainsi donc, l'espagnol n'est pas la langue de vos parents. Il se montra curieux de ma vie et de mes opinions comme d'un monde singulier dont il ignorait jusqu'à l'existence. Il est plus commun de voir nos semblables illustrer en leur conversation le détail de leur personne que de s'intéresser à celle de leur interlocuteur, et je reconnus à cette attention une qualité assez rare, d'autant que le compte de sa vie eût suffi à passer le reste de la nuit et quelques-unes des suivantes. « Voilà donc parti pour les Flandres, » repris-je, impatient de connaître la suite de ses aventures. « Ah, je n'ai pas vu le premier clocher. Mon caporal était sans doute peu porté sur le combat. Toujours est-il qu'une nuit, il m'éveilla, il me fit faire en sa compagnie le chemin inverse, soi-disant sur ordre du capitaine. Je me suis retrouvé à Naples avant même d'avoir compris que j'étais bel et bien déserteur. Je l'ai laissé là pour entrer au service d'un gentilhomme catalan qui m'a pris avec lui en campagne contre les Turcs. J'ai reçu le baptême du feu au siège de Patras. » L'année suivante, j'étais soldat moi-même et j'ai mené cette vie depuis, naviguant sans cesse. Je me flatte d'être devenu un assez bon marin. Il y a peu d'hommes qui connaissent comme moi les côtes et les mers de Méditerranée, de l'Espagne à la Syrie. J'ai même entrepris d'en dresser la carte. Et quel prince serviez-vous? Oh, j'étais à plusieurs, le vice-roi de Sicile, celui de Naples, et en dernier lieu, le grand maître de l'ordre de Malte, qui est français et a nom Vignacourt. J'ai eu, comment dire, quelques petits ennuis qui m'ont fait passer de l'un à l'autre. Il ne m'en dit pas plus à ce sujet cette nuit-là, mais j'appris que ces changements d'état avaient toujours la même cause, des rixes avec mort d'homme lors de beuveries ou de débauches. Il avait ainsi échappé de justesse à la potence. À Palerme, il avait pu se sauver la nuit d'une église où on voulait venir le pendre. Il avait, avec ses compagnons, volé une barque de pêche et ramé 3 jours entiers jusqu'à Naples. J'ai été riche et pauvre bien souvent. J'étais gamin encore, soldat à 3 écus de solde que j'arrivais à dépenser en 3 jours un chapeau rempli de doublons d'argent. C'est que la chasse au bateau turc est d'un bon rapport. Nous avons fait des voleries incroyables, mis à sac les magasins d'Alexandrette, pillé toutes les côtes du Levant, mais ce qui paye le plus, c'est encore la vente des prisonniers comme esclaves. Voici 2 ans, nous en avons pris 500 en morée, que l'ordre de Malte achète 60 écus pièces, qu'ils soient bons ou mauvais. Eh, ça fait un joli pécule. Hélas, les fillettes de cette île sont tant mignonnes et matoises qu'elles dépouillent en moins de 2 les soldats les mieux cousus d'or. Avec ces histoires de nefs et de galères, Contreras me fit voyager cette nuit-là sur les mers de l'imagination. Nous convînmes de nous revoir et nous jurâmes amitié éternelle. Il me vint à l'esprit que j'avais fait la connaissance du comte de Berlaymont dans des circonstances fort proches, dans les brumes d'un mauvais vin au goût de pois. Je ne pouvais deviner qu'un jour j'allais retrouver l'un et l'autre sur les chemins inattendus d'un même voyage. Au moment de nous quitter, je lui souhaitais bonne chance dans ses sollicitations, car il venait à la cour pour demander un brevet de capitaine. Il me pria de l'appuyer, mais je lui fis comprendre qu'un chantre de la chapelle, fût-il estimé en lieu, avait peu d'influence sur la chose militaire. Il est heureux que la griserie du moment ne m'ait point à cet égard faussé le jugement, car l'expérience montra que cette modestie était parfaitement fondée. Contreras ne reçut pas le brevet de capitaine qu'il espérait, mais fut seulement fait lieutenant. Le conseil de guerre qui avait en décidé s'était sans doute étonné des références assez singulières de ce soldat qu'on n'avait vu ni aux Pays-Bas ni aux Indes. Il quitta Valladolid peu après avec la mission d'aller lever des hommes en Estramadure et de les conduire au Portugal. Je le revis quelquefois dans les années qui suivirent. Il arrivait à l'improviste, s'étant encore attiré ici et là des aventures incroyables et généralement assez d'ennuis pour envoyer tout autre que lui à la potence. En partant pour le Portugal, il avait d'abord passé son épée à travers le corps de son capitaine. On ne lésine pas dans l'armée avec le manque de respect, et c'en était là un fait assez caractérisé pour mériter la mort, même si le dit capitaine avait survécu, même si aussi ce vilain officier avait voulu détourner à son profit les faveurs d'une dame prostituée de son état, mais pour lors maîtresse exclusive de Contreras. Celui-ci s'était enfui, à la fois pour échapper au supplice et pour obtenir justice. C'est à cette occasion que je le revis d'abord, échauffé par l'aventure et sûr de son bon droit. Il avait rassemblé des témoignages sur les circonstances du délit et obtenu la révision de son procès pour être finalement acquitté, ce qui fut l'occasion d'une belle ripaille. Je connaissais cependant assez les rouages de cette mécanique qu'est le pouvoir pour m'étonner d'une issue aussi heureuse et aussi rapide. J'allais en effet apprendre plus tard que les dés avaient été pipés, dés d'un jeu auquel, à mon tour, j'allais prendre part. Contreras repartit donc pour cette province d'Estramadure. Il avait eu la mauvaise surprise de voir que le gros de la troupe qu'il avait levée s'était envolé dans la nature. C'était là, paraît-il, un désagrément assez ordinaire. Les hommes de troupe sont enrôlés par tous les moyens, bons et mauvais. Ils apprennent en route le métier de soldat et en vivent les peines. Grande est donc la tentation de déserter avant qu'on les ait envoyés guerroyer en quelque contrée lointaine dont ils n'auront plus le moyen de revenir. C'est donc seulement avec 14 hommes et un tambour qu'il arriva à Lisbonne, et je connais assez son sens de l'honneur pour deviner combien il avait dû pâtir d'une si pitoyable entrée. Il ne resta guère en cette ville. Comme il devait rentrer sous les ordres du capitaine qu'il avait si vilainement blessé, il demanda et obtint licence de partir pour Palerme, se mettre au service du vice-roi de Sicile. Je reçus cette année-là une lettre de sa main, lettre plutôt qu'il avait dictée, car l'écriture n'était pas son fort. Il m'y faisait ses adieux, résolu à vivre là le reste de ses jours, passant une saison à de belles expéditions dans les mers du Levant et l'autre à se faire dorloter par sa nouvelle épouse. Le bougre avait séduit une riche espagnole, veuve d'un magistrat, et l'avait épousée, quoiqu'il ne fût qu'un soldat ne possédant pas plus que 4 fraises et 12 sous de solde. Il m'invitait à le rejoindre là-bas, se faisant fort de m'y faire donner un emploi de maître de musique, moi, le seul ami qui ne l'eût jamais trahi. Je n'en fis rien et fus bien inspiré. En fait d'amis, il s'en trouva un moins bon que moi qui visitait sa femme dès qu'il avait le dos tourné, et comme il le tournait longtemps, métier oblige, il fut cocu autant qu'on peut l'être. On aura compris qu'il n'était pas homme à s'accommoder de cet état. Non sans grandeur, il commenta ainsi le veuvage tragique et prématuré qui s'ensuivit. Je les surpris un jour réunis et ils moururent. Dieu les ait dans le ciel, si à cet instant suprême, ils se repentirent.